Continuons avec la partie séminaire. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et honneur de recevoir quelqu'un qui est ici chez lui, donc qui n'est pas la peine de présenter, Roger Chartier, que tout le monde connaît ici et partout du reste dans le monde, donc professeur émérite du Collège de France, qui était encore jusqu'à assez récemment titulaire donc de la chaire Écrits et culture dans l'Europe moderne, et qui est aussi actuellement, toujours en activité, professeur à l'Université de Pennsylvanie, et dont il nous vient directement pour participer à ce séminaire, ainsi du reste que pour le co-séminaire d'Alberto Manguel qui aura lieu demain soir. Donc voilà, donc vous aurez deux Roger Chartier en deux jours, c'est une chance absolue. Comme l'intitulé de sa chaire, Roger Chartier est un immense spécialiste de l'histoire du livre et de la lecture à l'époque moderne, auteur de très très nombreux livres extrêmement importants, traduits dans beaucoup de langues, je ne vais pas les citer. Peut-être juste un quand même important, qui est, parce que c'est celui dont il va parler, enfin à partir duquel il parlera sans doute, qui est parmi les tout derniers, donc Cardenio entre Cervantes et Shakespeare, histoire d'une pièce perdue, qui était parue aux éditions Gallimard en 2011. Et puis depuis ce temps-là, d'autres livres sont sortis, parce que Roger Chartier n'arrête pas. Il y a eu en particulier La main de l'auteur et l'esprit de l'imprimeur, paru en 2015. Roger Chartier a toujours vous avez un génie des titres, je trouve, c'est très beau. Et puis le tout dernier, pour le coup tout récent, Éditer et traduire, paru donc dans la collection Hautes études, une collection en coédition de l'EHESS, de Gallimard et du Seuil, qui est aussi tout à fait passionnant et qui porte sur des sujets toujours de l'histoire de la lecture et des œuvres et des livres à l'époque moderne, mais vraiment absolument passionnant. Et il y a une question aussi de Cardenio, qui sera du reste, qui va être l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Il y a trois semaines, Georges Forestier nous invitait, nous faisait partir à la recherche du Tartuffe perdu. Et là, aujourd'hui, c'est une autre pièce perdue, ou pas, je ne sais pas, qui est la recherche de Cardenio, de Shakespeare, à laquelle nous invite Roger Chartier. Voilà, je lui laisse donc la parole.
Merci. Avant de commencer, je voudrais me joindre à l'hommage rendu par William Marx aux villes et aux citoyens de l'Ukraine dévastée. Et il est difficile, en des temps si douloureux, de revenir à nos travaux ordinaires, mais le faire est sans doute notre tâche. Votre invitation, William Marx, m'ont éveillé en moi le souvenir de mon premier cours au Collège de France, devenu ce livre que vous avez cité. Ce cours était consacré à une œuvre perdue, une pièce de Shakespeare intitulée Cardenio, dont nous n'avons ni copie manuscrite ni édition imprimée. Alors faire retour à Cardenio près de 15 ans plus tard oblige à considérer, je crois, le nouveau contexte de l'intérêt pour les œuvres sans texte, si bien illustré par ce cours. Ces œuvres perdues prennent place aujourd'hui, je crois, dans des recherches étendues à tous les objets imprimés. C'est là, par exemple, l'objet de l'enquête d'Andrew Pettigrew à l'Université St. Andrews et du livre collectif qu'il a coédité et publié par Brill en 2016, « Lost Books », et le sous-titre « Reconstruire le monde de l'imprimé dans l'Europe pré-industrielle ». Cette recherche, celle de Pettigrew et d'autres, a trois dimensions. La première, c'est une histoire de l'imprimé et de l'imprimerie, si l'on pense que ni l'imprimé ni l'imprimerie sont réductibles à l'histoire des livres. En effet, l'essentiel des productions des ateliers typographiques entre XVIe et XVIIIe siècles était constitué par ce que l'on appelle les travaux de ville, ou en anglais « jump printing », formulaires, quittances, certificats, par exemple, pour commencer avec Gutenberg, les indulgences. Elle était aussi constituée, cette production des imprimeries, par des objets imprimés sur un seul côté d'une feuille. Ainsi, ils pouvaient être collés au mur, affiches, placards, ballades, dans le cas anglais, des XVIe et XVIIe siècles, et parce que les libraires et imprimeurs de Londres appelaient les pamphlets, c'est-à-dire des brochures non reliées, et, comme le nom l'indique, seulement brochées, ce qui était par exemple le cas des éditions des pièces de théâtre ou des livres pour le colportage. Dans tous ces cas, la fragilité de l'objet et, pour les deux premiers, l'éphémère de son utilité ou de sa lecture explique leur très fort taux de disparition, la faible survie de ces non-book texts, comme écrit Don Mackenzie, et dont les traces peuvent être retrouvées dans les archives des institutions ou dans les listes des libraires éditeurs qui les ont fait imprimer. Seconde histoire, une histoire de l'édition qui vise à retrouver la trace d'édition dont aucun exemplaire n'a survécu, alors même que nous connaissons les textes par d'autres éditions. Dans ce cas-là, ces éditions perdues sont mentionnées dans les catalogues de bibliothèques, dans les catalogues des ventes aux enchères, dans les annonces de périodiques, et évidemment, elles peuvent corriger la perspective de l'histoire des éditions d'un même texte. Mais ce texte-là n'est pas perdu. Enfin, une histoire des œuvres, à côté de l'histoire de l'imprimé et de l'histoire de l'édition, une histoire des œuvres dont les titres sont connus, mais dont aucun exemplaire, ni imprimé ni manuscrit, n'a été conservé. Dans ce cas, la quête des traces de leur existence suppose la mobilisation de sources très diverses, les registres des communautés de libraires et imprimeurs, les archives de la censure, les documents des institutions qui ont commandé ces œuvres, les correspondances et mémoires qui les citent, et les mentions de leur existence dans soit des inventaires de bibliothèques, soit d'autres œuvres qui les mentionnent ou les résument. C'est évidemment le cas de l'immensité des œuvres perdues de l'Antiquité grecque et latine, telles que les ont étudiées ces pertes Luciano Canfora. C'est aussi le cas des œuvres médiévales mentionnées dans des fragments de manuscrits détruits. Ce qui est différent, peut-être vous avez lu dans Le Monde la semaine dernière ou il y a deux semaines, ce qui est différent de de l'estimation du nombre des œuvres perdues, par exemple les romans de chevalerie, construits récemment dans un article de la revue Science à partir d'une application des modèles statistiques utilisés pour les espèces végétales ou animales, aux créations humaines. Ce dont je parle, c'est la mention dans des fragments d'œuvres disparues dans leur entier de ces textes dont nous savons presque rien. Dans le cas de Shakespeare, la quête des œuvres perdues peut conduire à ces deux dernières dimensions que j'ai mentionnées. Il y a les œuvres presque perdues, c'est-à-dire qui ont subsisté en un ou un seul exemplaire de leur première édition. C'est le cas des poèmes, c'est le cas des pièces, dans cette forme fragile qu'était la publication in quarto de pamphlets, de brochures. Un seul exemplaire a survécu pour les premières éditions de Venus and Adonis, en 1593, de Titus Andronicus en 1594, ou pour la première partie d'Henri VI en 1598. Et deux exemplaires seulement survivent de la première édition d'Hamlet, cette fameuse édition où la ligne, la vers le plus fameux du théâtre mondial est « To be or not to be, high, there's the point ». Et il n'y a pas là « question ». Ensuite, il y a deux titres sans texte, puisque dans les cas que je viens de présenter, nous avons le texte. Simplement, la première édition a pratiquement disparu. Dans le cas des œuvres sans texte, il y a deux cas shakespeariens. Le premier est « Love's Labour's Won »,« Peine d'amour gagnée », une pièce attribuée en 1598 à Francis Mears dans son « Palladis Tamia », où Shakespeare est comparé à Plaute pour les comédies, à Terence pour les tragédies, et six comédies sont citées, les deux gentilshommes de Vérone, la comédie des erreurs, Le songe d'une nuit d'été, Le marchand de Venise, Peine d'amour perdue et Peine d'amour gagnée, Lost, Labour's Won. Et cette pièce, le titre de cette pièce est présente dans un inventaire d'un libraire à Exeter en 1603 et elle accompagne d'autres pièces et en particulier Le marchand de Venise, La mégère apprivoisée ou Peine d'amour perdue. Pour autant, Love's Labour's Won a rencontré un faible intérêt, peut-être une des formes de l'indifférence dont vous parliez, puisque, autre référence à un des premiers cours, la perte était la règle pour les pièces de théâtre. Entre 1560 et 1640, les deux tiers des pièces représentées dont nous avons les titres n'ont jamais été imprimées et elles sont dans leur immense majorité, sans manuscrits, du fait de la destruction des manuscrits d'auteurs une fois qu'ils étaient copiés au propre, ce que l'on appelle les « fair copies », et de la destruction de ces copies utilisées dans les ateliers typographiques une fois que le texte était imprimé. C'est ainsi, par exemple, que la grande bibliothèque de Washington, la Folger Library, recense pour la période 1570-1642 797 titres de pièces sans texte. L'autre pièce, elle, a résisté à cette tentation de l'indifférence. Il s'agit de Cardenio. Et sans doute parce que, à partir du XVIIIe siècle, il y a eu un grand intérêt, voire même un enthousiasme conflictuel autour de cette pièce attribuée à Shakespeare, et sans doute du fait d'une double canonisation. C'était une pièce de Shakespeare perdue, mais c'était aussi une pièce dont l'intrigue était inspirée par Don Quichotte. Et donc se rencontraient à la fois Shakespeare, dramaturge, et Cervantes, auteur du premier, entre guillemets, roman de la modernité. Pour revenir sur cette histoire, j'ai pensé qu'il y avait trois temporalités possibles. La première, c'est la première moitié du XVIIe siècle, lorsque deux documents attestent que cette pièce a bien existé. Puisque dans le cas des pièces perdues, il y a un premier élément qui est de savoir si elles ont vraiment été perdues, si elles ont à un moment donné existé. Là, il y a certitude parce que deux documents d'institution, d'un côté il y a la trésorerie de la Chambre du roi d'Angleterre et de l'autre côté le registre des copyrights des libraires et imprimeurs de Londres, la Stationer's Company, attestent sa présence. Une deuxième temporalité, c'est le premier moment où il y a la volonté de retrouver, ou l'affirmation que l'on a retrouvée, cette pièce perdue, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, le premier tiers du XVIIIe siècle. Et un troisième moment, ce serait les temps contemporains, à partir de 1995, lorsque se sont multipliées les représentations théâtrales d'une pièce qui n'existe pas. Ce qui est un défi évidemment assez complexe et dont j'essaierai de montrer comment les metteurs en scène ont essayé de le relever. Alors, partons de la certitude que cette pièce a existé dans la première moitié du XVIIe siècle. En 1613, un ordre du trésorier de la Chambre du roi mentionne deux paiements en faveur de la troupe de Shakespeare et d'autres, les Kingsmen, à la demande du conseil privé. Le premier ordre de paiement du 20 mai 1613 demandait que soient accordées 60 livres à la compagnie, celle de Shakespeare, pour avoir représenté à la cour, durant les mois précédents, 6 pièces de théâtre. La quatrième est désignée comme Cardenio 2NO. Un mois plus tard, le 9 juillet, 6 livres et aussi 13 shillings et 4 pence doivent être payés à la même compagnie, les servants de Sa Majesté, pour la représentation d'une pièce dont le titre cette fois est donné comme Cardenia 2NA. Et cette pièce a été représentée lors de la réception par le souverain d'Angleterre, de l'ambassadeur du duc de Savoie. D'où d'emblée deux questions. D'abord, Cardenio et Cardenia sont-elles une seule et même pièce ? Sans doute. Les habituelles négligences des scribes, la confusion facile, automatique, entre le O et le A, le laisse penser. Ensuite, est-ce que ce Cardenio anglais, eh bien, le Cardenio amoureux de Lucinda dans Don Quichotte. Et cela paraît aussi très vraisemblable du fait de la proximité des deux noms. Le N-I de Cardenio peut avoir été lu comme un double N, mais aussi parce que ce nom étranger, espagnol, ne se rencontre pas en Angleterre avant la circulation du livre de Cervantes. On peut donc admettre que l'intrigue de la pièce représentée deux fois à la cour en 1613 était bien l'histoire, racontée dans Don Quichotte, des amours et désamours de Cardenio, qui a échangé une promesse de mariage avec Lucinda et qui a été trahi par son ami Fernando, le fils du duc. Après avoir séduit et promis le mariage à une autre jeune fille, Dorothea, Fernando est tombé amoureux de Lucinda, qui l'épouse. Comment les deux couples, qui en échangeant des promesses de futur ou de présent sont déjà mariés, pourront-ils être réunis après le second mariage de Fernando avec Lucinda, lui célébré selon les rites décidés par le Concile de Trente. Dans le livre de Cervantes, publié en 1605, cette histoire sentimentale des quatre jeunes gens se mêle, s'entremêle avec les aventures et les mésaventures de Don Quichotte entre le chapitre 23 et le chapitre 47. En 1613, Cardenio fut donc, sans doute, la première pièce anglaise qui porta sur la scène certains des personnages et une nouvelle, entre guillemets, présente dans Don Quichotte de la Manche. Doit-on lier cette traduction de cette pièce de 1613 avec la traduction de Don Quichotte qui avait été publiée l'année précédente, en 1612, due à Shelton? Peut-être, mais ce serait oublier une donnée fondamentale, c'est-à-dire le fait que le texte de Cervantes était connu en Angleterre l'année même de sa publication en Espagne, en 1605. Le livre avait été imprimé à Madrid à la fin de 1604 et il circulait déjà amplement avec, cette même année 1605, 5 éditions, 2 à Madrid, 2 à Lisbonne, 1 à Valence. Et c'est cette même année, 1605, qu'un exemplaire du Don Quichotte Cervantes en espagnol entra dans la Bodleian Library. Il fut sans doute acheté par un libraire londonien qui avait été envoyé en Espagne par Sir Thomas Bodley pour acquérir des livres espagnols. Et sans doute un autre exemplaire était présent en Angleterre, et sans doute beaucoup d'autres, introduit par un des gentilshommes qui avait accompagné une ambassade anglaise envoyée par le roi d'Angleterre auprès de Philippe III pour ratifier la paix qui avait été signée l'année précédente à Londres. Et d'ailleurs, dans une lettre adressée à son ami John Chamberlain en mai 1606, ce gentilhomme, Dudley Carleton, indiquait « Je vous envoie le défi de Don Quichotte qui est traduit dans toutes les langues et envoyé dans le monde entier ». Cette allusion demeure obscure, puisque nous ne savons pas de quel défi il s'agit, et que Don Quichotte, en 1606, n'a été traduit dans aucune langue. Mais la remarque est sans doute hyperbolique, et elle s'inscrit dans le premier corpus des premières allusions présentes dans de nombreuses pièces anglaises faites à l'histoire écrite par Cervantes avant la traduction de Shelton, publiée en 1612. Donc, en 1613, nous avons une pièce avec un titre, Cardenio, mais qui n'a pas d'auteur. En 1653, 40 ans plus tard, le registre de la communauté des libraires et imprimeurs de Londres lui donne deux auteurs. Le 9 septembre 1653, le libraire Humphrey Mosley fait enregistrer son writing copy, c'était l'expression d'affirmation de propriété sur un texte par un libraire ou imprimeur-éditeur, il fait enregistrer son writing copy sur 42 pièces. La dixième est enregistrée comme « The History of Cardenio by Master Fletcher, point, and Shakespeare ». Alors, doit-on prendre au pied de la lettre cette attribution du libraire Mosley ? C'était un éditeur royaliste qui publiait des pièces durant la fermeture des théâtres, qui avait été imposée par la Révolution anglaise en 1642 et par le Parlement. Du coup, Cardenio ne devait pas avoir une importance particulière pour lui. L'enregistrement de cette pièce, avec les 41 autres, s'inscrivait dans le cadre d'une politique éditoriale royaliste de résistance théâtrale à la fermeture des théâtres. De plus, Mosley n'est pas toujours très exact dans ses attributions, en particulier pour Shakespeare. Dans le même document, en 1653, il mentionne comme shakespearienne « The Merry Devil of Edmonton », c'est une pièce imprimée et anonyme en 1608, et « Henry I and Henry II by Shakespeare and Davenport », une ou peut-être deux pièces autorisées par le Master of Revels, qui régissait les représentations théâtrales à la cour et à la ville, en 1624, attribuées alors au seul Davenport, et perdues. Dans un enregistrement plus tardif, en juin 1660, Mosley attribue également à Will Shakespeare trois pièces, elles aussi perdues, The History of King Stephen, une tragédie, Duke Humphrey, et une comédie, Iphis et Ianta, and Ianta, or A Marriage Without a Man. Donc, certains ont eu des doutes par rapport à l'attribution de The History of Cardenio à Fletcher et Shakespeare. Toutefois, l'idée d'une collaboration entre Fletcher et Shakespeare, dont le nom est ajouté après un point, est toutefois tout à fait plausible. Durant l'année 1613, ils ont composé ensemble deux autres pièces, All is True, qui a été publiée dans le folio de 1623 comme La vie d'Henri VIII, et c'est le titre qu'on a gardé aujourd'hui, et The Two Noble Kinsmen, les deux nobles cousins, publiés avec leurs deux noms, Fletcher and Shakespeare, en 1634. Cardenio est sans doute la première de leur collaboration, puisque la pièce a vraisemblablement été représentée en janvier ou février de 1613. L'histoire de Cardenio et Fernando et l'intrigue de les deux nobles cousins sont très parallèles. Dans les deux cas, un jeune homme, Palamon, dans les deux nobles cousins Palamon et Arcite, mais sont une histoire tout à fait parallèle à celle de Cardenio et Fernando, c'est-à-dire la destruction brutale d'une parfaite amitié nouée entre deux jeunes hommes, souvent exprimée dans le langage de l'amour, du fait de la passion qu'ils ont pour la même femme, Lucinda dans le cas de Cervantes et Emilia dans le cas des deux nobles cousins. Si l'on admet du coup la véracité de l'attribution de Mosley, la pièce a bien existé, The History of Cardenio avait un manuscrit, et il demeure pour autant une question importante par rapport à la quête de cette pièce perdue. Est-elle de Shakespeare ou est-elle plutôt de Fletcher? Il ne fait aucun doute que Fletcher, dont le nom est cité en premier dans le registre de la Station House Company, était beaucoup plus familier des œuvres de Cervantes que ne l'était Shakespeare. Fletcher, dès 1613, s'était inspiré d'une autre nouvelle inscrite dans le Don Quichotte, la nouvelle du curieux impertinent, chapitre 23 à 25 de la première partie, pour une de ses propres œuvres, The Coxcomb. Avant et après 1613, il utilisera Don Quichotte dans deux pièces, les nouvelles exemplaires dans quatre pièces, et également le dernier œuvre posthume de Cervantes, les travaux de Persiles et Sigismunda, dans une autre pièce. Il est certain que Fletcher était familier de l'œuvre de Cervantes et qu'il connaissait parfaitement l'espagnol, puisque ce n'est qu'en 1640 que les novelas ejemplares, les nouvelles exemplaires, et seulement six d'entre elles, vont être publiées en anglais. Il les utilise pour ses propres pièces antérieurement, entre 1616 et 1626. Du coup, on voit qu'il y a là une première distorsion. Il est sans doute clair que l'idée de construire une pièce à partir du Quichotte est une idée de John Fletcher. Est-ce que Shakespeare était totalement absent de cette entreprise? Peut-être pas, comme l'a montré Gary Taylor, si l'on pense au titre donné à la pièce, « The History of Cardenio ». Et cette formule est une formule particulièrement shakespearienne. Dans 6 pièces de Shakespeare imprimées avant 1613, on a cette même formule. « The History of Henry IV »,« The Chronicle History of Henry V »,« The Most Excellent History of the Merchant of Venice », The Tragical History of Hamlet, Prince of Denmark, The True Chronicle History of the Life and Death of King Lear and His Three Daughters, and finalement, The History of Troilus and Cressida. Aucune des pièces de Fletcher n'utilise cette formule dans son titre et aucun autre dramaturge ne l'emploie aussi fréquemment. Gary Taylor a donc conclu que de ces parallèles lexicaux, on pouvait identifier Shakespeare comme le dramaturge enclin plus que tout autre à choisir « The History of Cardenio » comme le titre d'une pièce. Et son inclination fut sans doute fortifiée par le choix choisi par Shelton, le traducteur de 1612 du Quichotte, puisqu'il a donné pour titre « The History of the Valorous and Witty Knight-Errant Don Quixote de la Mancha ». Et le titre espagnol, comme vous savez, n'avait pas de History, ou historia, ou histoire. Et il était El Ingenioso Hidalgo, Don Quixote de la Mancha. Shelton a ajouté le mot history, acceptant ainsi ou la rendant visible la fiction de Cervantes, qui fait des aventures du chevalier errant une histoire véritable, documentée, fondée en archives. Et il substitue au mot Hidalgo celui de knight errant, de chevalier errant, comme si les lecteurs, ou du moins certains d'entre eux, connaissaient déjà l'histoire d'un pauvre gentilhomme qui décide de se nommer lui-même chevalier errant et qui prend le nom de Don Quichotte de la Manche. Cette première histoire aurait pu s'arrêter là, en 1653. Une pièce avec un titre et deux auteurs, mais pas de texte. La deuxième temporalité va lui donner un texte. En 1727, Lewis Theobald, qui était à la fois un éditeur et un dramaturge, fait représenter à Londres une pièce intitulée « Double Falsehood or the Distressed Lovers » et il la publie l'année suivante, en 1728. Sur la page de titre de l'édition de cette pièce, l'œuvre est présentée comme si elle avait été écrite originellement par William Shakespeare, tout seul, et maintenant révisée et adaptée pour la scène. C'est là le titre de l'édition de Double Falsehood. Written originally by William Shakespeare and now revised and adapted to the stage by Master Theobald. Dans la préface de l'édition, Théobald indique que l'intrigue de cette pièce est bâtie à partir d'une nouvelle contenue dans Don Quichotte, c'est-à-dire l'histoire des amours et des amours de Cardenio, Lucinda, Fernando et Dorothea. La pièce proposait aux spectateurs du théâtre l'histoire de quatre amants malheureux mais finalement réunis, dotés de noms nouveaux donnés par Théobald, mais ceux qui connaissaient Don Quichotte pouvaient évidemment reconnaître immédiatement Cardenio, Lucinda, Fernando et Dorothea. Et cette pièce fut annoncée comme une sorte de miracle qui comblait les vœux de tous ceux qui espéraient qu'un nouveau Shakespeare, qu'un dramaturge nouveau pourrait restaurer le génie perdu du théâtre anglais, corrompu par les gens à la mode. Alors la pièce retrouvée faisait que c'était Shakespeare lui-même qui était ce nouveau Shakespeare, Shakespeare rappelé de son tombeau, qui rétablissait l'honneur, la dignité du théâtre anglais. Pour Theobald, la tâche était double, car pour lui, les œuvres de Shakespeare avaient été doublement perdues. D'abord, certaines, comme Cardenio, semblaient disparues. Mais Theobald prétendait posséder plusieurs copies de la pièce, dont la plus ancienne datait, selon lui, des années 1660. Elle avait appartenu à la compagnie de Davenant. Et elle était donc la relique sacrée qui ramenait la pièce perdue sur le théâtre. Mais de plus, Théobald pensait que même pour les pièces qui n'avaient pas disparu, elles avaient quand même été perdues du fait de la corruption, des corruptions introduites dans leurs textes, soit par les additions des acteurs, soit par les transcriptions fautives des reconstructions mémorielles. Et seul l'exercice de la critique, du « literal criticism », comme il le disait, permettrait de retrouver ces œuvres perdues parce que corrompues, dénaturées. L'authenticité shakespearienne de Double Falsehood n'emporta pas la conviction unanime. Certains, comme Pope, qui était un ennemi juré de Théobald, qui avait écrit au début des années 1720 une critique dévastatrice de l'édition de Pope de Shakespeare, Pope insinua que la pièce pouvait être une pure falsification et que là, la résurrection était forgerie. D'autres reconnurent la main de Fletcher, beaucoup plus que la main de Shakespeare. En tout cas, Théobald lui-même fut ébranlé dans cette attribution glissante de Shakespeare à Fletcher, et il décida de ne pas inclure cette pièce dans son édition des œuvres de Shakespeare qu'il publia en 1733. Et c'est alors que commença le mythe de la pièce perdue, mais peut-être ressuscitée, qui argue au XXe siècle, et plus particulièrement dans les dernières décennies, susciter l'intérêt à la fois de la critique textuelle, à partir de 2011, c'est-à-dire même plus récemment que ce que je dis sur la fin du XXe siècle. Il y a une dizaine d'articles ou de livres qui ont été publiés autour du Cardenio. Elle a suscité aussi cette histoire, la passion de certains romanciers, qui la traitent comme une intrigue policière. Retrouver le Cardenio perdu, c'est le cas de Jasper Ford. Ou bien encore, et c'est là à quoi je vais m'attacher pour terminer, les productions théâtrales, puisqu'évidemment c'est là le plus paradoxal, c'est-à-dire les très nombreuses représentations de Cardenio après 1995, sans doute parce que pour la scène, la perte d'une œuvre qui associe les deux géants, tous deux morts en 1616, mais pas le même jour, contrairement à ce qu'on pense, de Cervantes et de Shakespeare, était intolérable, insupportable. Donc, ressusciter la pièce était une exigence. Mais comment faire pour représenter une pièce qui n'existe pas ? Il y a quatre possibilités. La première possibilité, c'est la réattribution, c'est-à-dire de représenter une pièce qui existe en disant, en décidant qu'il s'agit du Cardenio perdu. Cela a été rendu possible par un livre de Charles Hamilton, publié en 1994, qui considérait qu'un manuscrit autographe d'une pièce conservée avait reçu un mauvais titre, The Second Maiden's Tragedy, était en fait, de la main même de Shakespeare, le manuscrit de Cardenio. Cette pièce aujourd'hui est évidemment attribuée à Middleton et aucune des preuves avancées par Hamilton, qui n'était pas réellement un scholar, ne tient la route, et en particulier l'identification de la main de Shakespeare à partir seulement d'un testament sans doute qui n'était pas holographe. Et donc les éléments sont extrêmement fragiles dans cette attribution de cette pièce à Shakespeare, en plus en le changement de son nom, son titre. Mais les metteurs en scène ont pensé que c'était une extraordinaire possibilité. Et à partir de 1995 jusque dans les années 2004-2005, aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre, on a représenté très souvent la Cardenio en jouant le texte de la pièce, sans doute de Middleton, The Second Maiden Tragedy. Et ce qui était d'autant plus curieux, c'est le fait que dans cette pièce, il n'y a aucun rapport avec les histoires d'amour de Cardenio et Lucinda. C'est une pièce violente, macabre, avec des scènes dignes de Titus Andronicus. Donc, aucune histoire parallèle à celle des quatre jeunes gens amoureux. De plus, la relation avec Don Quichotte n'était donc du coup absolument pas présente, sauf que Middleton, si c'est lui, avait utilisé la nouvelle du curieux impertinent, ces trois chapitres de la première partie du Quichotte, comme une intrigue secondaire dans sa propre pièce. Mais ces anomalies ou ces impossibilités n'ont pas découragé les metteurs en scène dans leur désir de retrouver le Cardenio perdu, et donc on a joué cette tragédie, The Second Maiden Tragedy, très fréquemment sur les scènes américaines et anglaises. Un second procédé est l'imitation inspirée, c'est-à-dire l'idée que Cardenio est perdu, mais on peut s'inspirer de l'esprit shakespearien qui, sans doute, était présent dans la pièce pour écrire une pièce qui serait en quelque sorte un écho de Cardenio. C'est la solution choisie par le très grand critique shakespearien Stephen Greenblatt et le dramaturge Charles Mee pour un Cardenio représenté en 2008 et qui se veut fidèle à l'esprit d'une comédie shakespearienne. Dans ce cas-là, l'intrigue peut-être le génie de ces deux dramaturges. Dans ce cas-là, l'intrigue principale est donnée à nouveau par le curieux impertinent. Vous vous souvenez peut-être, c'est l'histoire d'un mari si sûr de la fidélité de sa femme qu'il défie son meilleur ami de la séduire, ce qui malheureusement arrive. Et donc, la fin est plus tragique que le début de l'intrigue. Et donc, c'est cette intrigue-là qui sert de matrice à la pièce de Greenblatt et Mee, un mariage en Toscane entre Camilla et Anselmo. Et Anselmo, imprudent, défie son meilleur ami, dont le nom est Will, de séduire Camilla, ce qu'il fit. Mais dans les scènes de séduction, il y a l'intervention d'une pièce perdue de Shakespeare que l'on vient de retrouver et qui a été apportée encore en cadeau de mariage. Et donc, c'est en répétant les rôles de Lucinda et de Cardenio que Will et Camilla, finalement, tombent amoureux l'un de l'autre. Quand la pièce est citée, évidemment, c'est la pièce de Théobald. C'est-à-dire, c'est le texte de Théobald qui est donné comme équivalent à la pièce retrouvée de Shakespeare, offerte aux deux mariés pour la grande détresse de l'époux. Troisième possibilité, alors, historique celle-ci, c'est-à-dire finalement jouer la pièce de Théobald et considérer que Double Falsehood est le Cardenio de Shakespeare, ou du moins une adaptation du Cardenio de Shakespeare. C'était le cas de la mise en scène de la Royal Shakespeare Company en 2011, une mise en scène de Gregory Doran, mais il est difficile de ne jouer que le texte de Théobald pour retrouver le Cardenio perdu. De là, des décisions par rapport au texte, c'est-à-dire en introduisant des éléments de la traduction de Shelton du Don Quichotte, de façon à enrichir et à hispaniser la pièce de Théobald, et aussi de donner, c'était le cas de la mise en scène, une mise en scène tout à fait fondée sur des références, certains ont dit des stéréotypes espagnols du siècle d'or ou du flamenco contemporain. Quatrième solution, c'est pratiquement inverse de la précédente. C'est bien sûr de toujours utiliser la pièce de Théobald, qui est notre seul vestige, peut-être pas relique, mais vestige de la pièce de Shakespeare. Mais la démarche est inverse, puisque dans ce cas-là, il s'agit de éliminer Théobald pour retrouver dans une couche de texte antérieure à ce que lui a écrit la main de Fletcher et Shakespeare. Dans ce cas-là, il s'agit d'une reconstruction textuelle fondée sur des analyses computationnelles qui identifient les préférences, soit du lexique, soit des associations de mots, soit des images que l'on retrouve dans les pièces de Fletcher, de Shakespeare et de Théobald, puisqu'il était aussi un dramaturge. Et donc, du coup, une fois identifiées ce qui leur est propre, d'ôter, d'exciser de double falsehood tout ce qui est attribuable seulement à la main de Théobald, pour retrouver, comme dans une sorte de sédimentation géologique, un premier texte, un ur-texte, un texte originel, qui serait celui écrit, pour certaines parties, par Fletcher, et pour d'autres parties, par Shakespeare. C'est le travail qu'a fait Gary Taylor, aussi éditeur de Shakespeare, comme s'il y avait une sorte de fascination des éditeurs de Shakespeare pour devenir, dans un certain sens, Shakespeare. C'est le cas de Stephen Greenblatt, c'est le cas précédemment de Lewis Theobald, et c'est le cas de Gary Taylor, qui a proposé successivement 9 reconstructions archéologiques, alors là, au sens propre, puisqu'il s'agit de ôter une couche supérieure de texte pour retrouver les couches inférieures. Et finalement, la dernière, en 2012, a permis de représenter cette pièce qui a définitivement exclu Lewis Theobald et qui était présentée à Indianapolis, j'ai pu la voir d'ailleurs, comme le fruit d'une collaboration entre 3 auteurs, Fletcher, Shakespeare, Gary Taylor. Et donc, du coup, et dans cet ordre. Et dans ces cours, on est là, de fait, à une tentative extrêmement intéressante, puisqu'elle est presque contradictoire. D'un côté, il s'agit d'une un-adaptation, non pas une adaptation, mais une non-adaptation, une désadaptation, de façon à retrouver les textes de Fletcher et Shakespeare derrière le vernis qui leur a été imposé par Théobald. Dans ce sens-là, c'est un peu comme la restauration des œuvres de peinture pour enlever les couches ajoutées pour retrouver l'œuvre première. Donc on est face à une un-adaptation. En même temps, évidemment, ce que revendique Gary Taylor, co-auteur avec Fletcher et Shakespeare, c'est une creative reconstruction. On retrouverait ici ce que vous disiez pour finir sur l'idée d'une décréation de façon à produire quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'est une décision fondamentale, faire entrer sur la scène Don Quichotte et Sancho, ce qui n'était le cas ni de la pièce de Théobald, ni de la pièce de Gregory Doran, et ni de toutes les pièces qui se servaient, évidemment, du texte d'Hamilton ou du texte de Théobald. Et donc, Gary Taylor, c'est sa contribution, sa collaboration, c'est de mettre sur la scène Don Quichotte et Sancho comme une intrigue secondaire par rapport à l'histoire de Théobald, qui était retrouvé finalement ce qu'avaient fait des dramaturges du XVIIe siècle. Guillaume de Castro en Espagne, Pichou en France, Guérin de Bouscal en France. Donc de retrouver cette idée-là, mais évidemment ça suppose d'ajouter du texte, de faire des raccords nécessaires pour que les intrigues s'articulent l'une avec l'autre. Et Gary Taylor a donc écrit ces passages qui caractérisent la reconstruction créatrice qui est la sienne, selon les lieux dans la pièce, en imitant le texte de Fletcher, ou en imitant, enfin le texte, en imitant les pratiques, les procédés, les formules, le lexique de Fletcher, et celui pour d'autres parties de Shakespeare. Parce que dès le XIXe siècle, enfin dès le début du XXe siècle, il avait été clair pour certains critiques que la pièce n'était pas de Shakespeare, n'était pas de Fletcher, mais était des deux, et que commençait ce mouvement où on identifie de plus en plus des collaborations. Et donc que l'on pouvait identifier, même avant l'usage des ordinateurs, des passages qui étaient plutôt fletchérien, et d'autres qui étaient plutôt shakespeariens. Donc, quatrième possibilité de lire une pièce et de voir une pièce qui n'existe pas. Alors la conclusion, ce serait, pour laisser un peu de temps à la discussion, que Cardenio, en quelque sorte, est un fantôme obsédant, bien que sa perte tout était considéré comme normal dans le cadre du théâtre anglais du XVIIe siècle. C'est un fantôme obsédant, non seulement parce que le nom de Shakespeare y était attaché, mais on a vu qu'avec Peine d'amour gagnée, ce n'était pas forcément suffisant pour créer une passion restauratrice. Mais sans doute parce que c'était l'œuvre dans laquelle se rencontraient Cervantes et Shakespeare. Une œuvre qui, en son départ, était une novella, une nouvelle écrite par Cervantes et introduite dans Don Quichotte, et qui avait été, miracle, réécrite par William Shakespeare. Merci.